Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir, Marion Calais, Cyprien Signy.
18h40, on va donc défaire le monde maintenant avec vous, Cyprien Signy et toute la bande Nerissa Emani, Laurent Tessier, l'info avec un autre regard jusqu'à 19h au menu Cyprien.
Ce soir, on défait les embouteillages. Vous êtes peut-être en plein dedans en nous écoutant, alors on ne va pas vous en sortir, hein, mais on va vous expliquer comment, grâce à la physique, on lutte contre les bouchons. Au menu également, hommage à José Mourinho, seul entraîneur de foot de l'histoire, vainqueur de toutes les Coupes d'Europe. Et puis on aura droit à une leçon de voltige, enfin surtout à une leçon de vie en toute fin d'émission. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et pour commencer, le son du jour.
Plus de 1300 km de bouchons et de ralentissements cumulés.
Ah bah hier soir sur les routes de France, c'était le mois d'août, hein, niveau embouteillage. Et on a beau savoir que c'est une journée rouge, avoir des GPS bourrés d'intelligence artificielle censés nous faire éviter les bouchons.
On part quand même.
Bah ouais, rien n'y fait, hein. Impossible d'y couper, Marion, vous le savez. Alors avec l'équipe d'On défait le monde, on a décidé de s'intéresser de plus près au rôle de la physique et des mathématiques dans les embouteillages.
Comment la science nous permet-elle de mieux comprendre leur formation, leur durée et surtout comment nous aide-t-elle à les contrer?
Pour tout nous expliquer, on a contacté un vrai pro, un chercheur en physique et mathématiques, Walid Mouali. Il est prof à l'ECE à Paris, c'est une école d'ingénieurs. Et d'abord, on lui a demandé quel était le rapport, faut bien le dire, entre mécanique des fluides et le trafic routier.
On fait de la mécanique des fluides, la mécanique c'est la science du mouvement. Donc on peut voir un trafic routier comme un ensemble de véhicules, chacun serait vu dans cette analogie comme une molécule, chacun est animé d'une vitesse, donc on peut faire de la mécanique des fluides appliquée au trafic routier. Donc on va essayer d'appliquer les mêmes équations en essayant de comprendre les embouteillages via la mécanique des fluides.
Ok. Ça sert à quoi ?
Ça c'est une bonne question. Eh bien, à mieux comprendre la formation des embouteillages par exemple. Parce qu'en réalité, il y a plein de sortes de bouchons. Vous avez le plus classique, le plus simple à comprendre.
Qui explique les embouteillages, c'est l'offre et la demande. On va parler de débit, donc de nombre de véhicules sur une file de route ou d'autoroute. Si le nombre de véhicules est trop important, il va se passer des phénomènes de rétrécissement de voies, disons, indirect, un peu comme dans un sablier.
Voilà, ça c'est l'image du sablier, tout le monde l'a. Mm-hmm. C'est plutôt simple. En revanche, grâce aux analyses physiques et mathématiques, on découvre le concept de l'embouteillage fantôme. Alors avec le fantôme, il n'y a pas spécialement de monde, pas d'accident, mais un embouteillage quand même.
On le voit très bien, celui-là.
Écoutez plutôt.
Il suffit que quelqu'un veuille changer de fil de manière complètement innocente pour engager une perturbation qui va se propager de proche en proche. Donc les autres véhicules vont ressentir le changement de fil, du coup réduire leur vitesse, et chaque véhicule va le faire de proche en proche, créant ainsi des embouteillages qu'on appelle des embouteillages fantômes. On appelle un peu la théorie du chaos, petite cause, grands effets. On voit que ça ressemble exactement à la propagation d'une onde. Lorsque vous jetez un caillou à la surface d'un lac, vous voyez des petites perturbations qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller en avant. Eh bien, c'est vraiment cette analogie-là que nous, on va privilégier.
L'embouteillage fabriqué par nos comportements humains, en fait.
C'est génial, ouais. Cette analyse par la mécanique des fluides. Elle a d'autres intérêts, cette façon d'appréhender la route ?
Oui, d'éviter de construire des voies pour rien, par exemple. Je vous explique. Vous vous dites logiquement qu'en rajoutant une file sur une route, ça va améliorer le trafic. Eh bien, pas du tout, en fait.
Ça a donné lieu à un paradoxe qui a été démontré mathématiquement. Ça s'appelle le paradoxe de Bress. On peut prouver que si on rajoute une file sur une route, ça cause d'autres embouteillages fantômes. Si une ville décide de construire une nouvelle route, on va appeler cette route A, nettement plus rapide que deux autres voies existantes sur cette même route, donc on va appeler B et C. Les automobilistes n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller vite. Et donc tous les automobilistes vont opter pour aller sur la file A. Et finalement, l'équilibre du nombre d'automobilistes est rompu. Un bouchon va se former et au final, les conducteurs vont mettre beaucoup plus de temps en empruntant la file A que en se répartissant de manière équilibrée sur les voies B et C. Il y a un exemple très frappant. C'était à Stuttgart dans les années 60. On n'a jamais vu autant d'embouteillages suite à la décision de créer une file supplémentaire dans une route.
Donc, dans un monde merveilleux, pour éviter tout embouteillage, il faudrait qu'on parte pas tous en même temps, déjà pour commencer, qu'on change jamais de fil et qu'on respecte les limitations de vitesse.
En fait, c'est pour ça que vous avez décidé de partir ce soir, du coup, c'est ça ?
Vous savez.
Bonne idée.
RTL, sous les radars.
Sous les radars, tous les soirs, dans On défait le monde, une info passée inaperçue.
Et ce soir, direction l'Espagne, où face à l'augmentation du prix de l'énergie, les autorités ont décidé de prendre sérieusement les choses en main pour économiser, Laurent.
Oui, ça continue. On vous en avait parlé dans l'émission il y a un mois. Madrid avait choisi de supprimer des rames de métro pour économiser sur la facture électrique. Et bien là, aujourd'hui, l'Espagne va encore plus loin en décidant de limiter la climatisation dans les bâtiments publics. Interdiction de la régler à moins de 27 degrés.
Ah, c'est chaud.
En hiver, bah oui, vous imaginez. En hiver, il faudra mettre un t-shirt sous le pull. Le chauffage ne pourra pas être mis au-dessus de 19 degrés.
Il fait froid.
La ministre de la fonction publique espagnole a prévenu, les mesures s'appliquent immédiatement, ça ne rigole pas.
Non, ça va, un t-shirt sous le pull,
oui,
c'est acceptable.
C'est même plus là, en scout on a froid. Mais alors, si j'ai quand même trop froid ou trop chaud, c'est pas bon pour travailler sereinement.
Alors, si la température, Cyprien, de votre bureau vous obsède,
en
Espagne, pensez à tout. Le télétravail va être renforcé dans l'administration, les salariés de la fonction publique d'État pourront effectuer 3 jours de travail à distance pour 2 jours de travail en présentiel, et des mesures qui pourraient peut-être nous inspirer chez nous en France pour réduire notre consommation d'énergie.
Exactement, ce serait une bonne idée dans les logements.
Moi, je trouve que 18 degrés,
c'est juste. Hein.
Ouais, hein, l'hiver, là,
l'été, moi, j'ai des gants. 19 degrés. 1 degré au-dessus.
Ouais.
27 degrés, c'est chaud, par contre.
Et 27 degrés, c'est chaud.
Bon, il y a débat. Bah, sinon, on ne travaille pas tous dans le même bureau et on ne met pas tous la température au même niveau.
Exactement.
On fait comme ça ? Allez, une petite pause. On continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. On va briller au Louvre, figurez-vous.
On défait le monde. Marion Calais, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
Et On défait le monde continue dans RTL Soir à 18h49. Voici donc la première info pour briller au dîner.
L'ancien patron du Louvre mis en examen pour blanchiment, vous en parlez dans le journal de 18h. Et donc Laurent, l'occasion de briller avec le Louvre.
Oui, avec le premier artiste exposé au Louvre de son vivant. Vous savez qui c'est ?
Pas du tout.
Eh bien c'est Pablo Picasso. C'était en octobre 1971, en présence d'ailleurs du président Georges Pompidou, le célèbre peintre avec 90 ans. Et lors de l'inauguration, le président Pompidou déclarait:
Picasso est une espèce de volcan qui est sorti tout seul, isolé, il y a tous les autres, et puis il y a Picasso. Il est en activité bouillonnante en permanence. C'est une sorte de monstre sacré de l'art.
Et plusieurs créations de Picasso découlent de dessins, gravures, peintures ou sculptures conservées au Louvre.
Toujours conservées au Louvre, malgré la création du musée Picasso aussi à Paris.
On défait le monde. Marion Calais, Cyprien Signy.
Verdict maintenant, winner ou loser du jour. Ce soir, pour la première fois de la semaine, Neri Saïmani a décidé d'être généreuse et elle désigne un gagnant.
Oui, enfin un gagnant même. Hein. C'est un petit événement, elle a trouvé quelqu'un qui avait grâce à ses yeux. Et le élu, c'est l'entraîneur de foot de l'AS Rome, le portugais José Mourinho.
Oui, parce que José Mourinho a marqué l'histoire hier.
Pas terminé.
L'AS Rome remporte la Ligue Europa Conférence et le coach Mourinho son 5e trophée européen. À 59 ans, il est le seul entraîneur à avoir gagné toutes les coupes européennes, l'un des plus beaux palmarès du foot.
Vainqueur à 2 reprises de la Ligue des Champions avec Porto et l'Inter Milan, de 8 championnats nationaux et de 2 Europa League.
Comme dirait Laurent Blanc.
José Mourinho, c'est un génie. Il est très fort, José.
Il est fort José. Oui, parce qu'il faut savoir un truc sur José Mario dos Santos Mourinho Félix. Oui, c'est son vrai nom.
Chaque fois que José Mourinho entraîne un club, il est champion. Alors comment fait-il ? Eh bien, il a établi une méthode.
Et la méthode Mourinho, c'est d'abord beaucoup, beaucoup de confiance en soi. Exemple pour sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Chelsea.
I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager.
Désolé d'être arrogant, mais je suis un bon manager.
European champion. I think I'm a special one.
Je suis champion d'Europe, donc je pense que je suis spécial, the special one. C'est son surnom, celui qu'il s'est donné lui-même. Et José, il peut faire encore mieux niveau confiance, comme quand il arrive à Tottenham, qui vient de perdre une finale de Ligue des Champions.
Do you think no winning the final?
Pensez-vous que la défaite en finale de Ligue des Champions a laissé des traces?
Je ne sais pas, j'ai jamais perdu une finale de Ligue des Champions.
Et ben voilà, ça c'est de la grosse confiance.
Ça c'est de la confiance. Deuxième élément de la méthode Mourinho, l'entraînement à la dure. D'ailleurs, le Portugais est toujours sur le terrain avec son équipe.
Il n'est pas comme certains managers qui, les 2-3 premiers jours d'entraînement de la semaine, ne vont pas être là. José est là du premier jour, du premier au dernier jour.
Et il n'hésite pas à pousser une gueulante dans les vestiaires, quitte à être parfois incompréhensible.
Hey, wake up, hey. The game is important, fuck.
And in the end of the game, you are going to be here.
Comment ?
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Là, on comprend pas. Et puis derrière cet entraîneur arrogant se cache aussi quelqu'un capable d'autocritique. Enfin, juste un peu.
Durant ma carrière, j'ai fait des erreurs. Je ne vais pas refaire les mêmes, mais je vais en faire des nouvelles.
Et ça n'a pas loupé. Il finit par être viré de Tottenham et atterrit à l'AS Roma. Finalement, ça ne lui a pas trop mal réussi avec un tel palmarès. On aimerait bien le voir en France, José. À Saint-Etienne, dit-elle avec son t-shirt vert d'un air intéressé, s'ils se maintiennent en Ligue 1, bien sûr. D'ailleurs, lui n'est pas totalement fermé à la France. En plus, point positif, il sait parler notre langue.
J'aime connaître des autres cultures. Pour moi, travailler dans une autre championnat sera une expérience fantastique.
C'est pas mal. Et papa, on le comprend aussi en français.
Voilà, l'histoire Mourinho continue à s'écrire.
Les vertus de la confiance en soi, c'est une bonne source d'inspiration aussi, José Mourinho.
On dirait un sujet du bac.
Vous avez 4 heures.
Voilà, vous avez 4 heures. Une petite pause et dans un instant, une nouvelle info pour briller. Au dîner, on va partir au Pérou. A tout de suite.
On défait le monde.
Marion Calais, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
Et à 18h55, vous l'attendez, la voici, la seconde info pour briller au dîner.
C'est un peu passé inaperçu, séisme de magnitude 7.2 au Pérou cet après-midi. Heureusement, aucune victime, aucun dégât. Sinon, on n'en parlerait pas. Mais Nerissa, enfin, en tout cas, comme ça, avec cette musique étrange derrière nous, qui est une musique péruvienne, je précise. Bon, bref, Nerissa, vous êtes quand même demandé d'où venait l'expression « c'est pas le Pérou ».
Oui, vous savez, quand on veut dire que quelque chose a peu de valeur, peu d'importance, eh bien, c'est parce que pendant très longtemps, le Pérou a été considéré par les Européens comme un vrai Eldorado. En fait, quand les Espagnols colonisent le pays au XVIe siècle, ils découvrent que le Pérou regorge de gisements d'or et d'argent et ils l'exploitent. À l'époque, par exemple, la moitié de l'argent exporté dans le monde vient du Pérou. Les réserves se sont peu à peu épuisées, mais le Pérou est resté dans l'imaginaire collectif comme le pays de toutes les richesses. D'ailleurs, à l'origine, on utilise l'expression à l'affirmatif. On dit c'est le Pérou, à l'affirmatif, je vais y arriver. Ouais. On dit c'est le Pérou pour dire qu'on a amassé une fortune. Et maintenant, on dit c'est pas le Pérou,
c'est le Pérou. Bon, alors c'est le moment
c'est
où
le Pérou,
on
c'est pas le Pérou.
Donc, le premier artiste exposé au Louvre, ou c'est le Pérou, c'est pas le Pérou. Peggy, j'avais envie qu'on choisisse tous les deux. Vous prenez c'est le Pérou, et moi je prends Laurent. Bon, ben un partout.
Égalité.
Mal au centre.
Voilà. Cyprien, allez. Bah moi, j'ai bien aimé celle de Laurent Picasso, premier artiste exposé au Louvre de son vivant. Je ne le savais pas.
Victoire. Laurent Fessier. Bravo.
Bravo, Laurent.
Il est jour férié.
Marche ou rêve.
Vous reviendrez maintenant. Marche ou rêve. Vos idées, vos initiatives les plus folles, les plus incroyables. Et ce soir,
nous sommes jeudi. Et comme tous les jeudis. Tradition, c'est jeudi sport, vos initiatives, vos défis en rapport avec le sport. Et ce soir, ça va même plus loin, parce que c'est une vraie leçon de vie qu'on vous propose, Laurent.
Oui, un courage, une force exemplaire, une inspiration. Dorine est devenue la première femme handicapée au monde, pilote de voltige. Bonsoir Dorine.
Bonsoir.
Vous avez reçu dernièrement la médaille de l'Ordre National du Mérite. L'aviation, c'est une histoire de famille.
Oui, mon père était pilote privé. C'était pas son métier, il était chauffeur de taxi, mais sa grande passion, c'est l'aviation. Et quand j'étais petite, il partageait avec moi cette passion. C'était une vraie encyclopédie à la maison. Il nous racontait les histoires des pilotes de l'aéropostale. Vous savez, ces hommes qui transportaient du courrier de Toulouse à Saint-Louis du Sénégal et qui vivaient des aventures extraordinaires. Et moi, je voulais leur ressembler à ces pilotes.
Et vous avez un rapport avec l'avion qui est quand même très particulier.
Oui, parce que je me suis donc inscrite à l'aéroclub, là où venait mon père, à 15 ans. Parce que j'avais envie de commencer tout de suite, je pouvais pas attendre. Et 9 mois après mes premiers vols à l'aéroclub, eh bien j'ai eu un accident. J'étais passagère ce jour-là. Le pilote est rentré dans une couche nuageuse. Il a perdu le contrôle de l'appareil. On s'est crashé. Et j'ai été la seule survivante. Et quand je me suis réveillée dans mon lit d'hôpital, eh bien, je me suis dit, mais je peux pas abandonner mon rêve. Parce que si j'abandonne mon rêve, ce sera un véritable échec. Et moi, je peux pas vivre avec cet échec. Et puis, tous les autres sont morts dans cet accident. On était 4. Et je me suis dit, il faut que je m'accroche.
Et donc, vous avez perdu l'usage de vos jambes. Et malgré tout, vous avez continué et vous avez réussi à revoler.
Mais oui, malheureusement, quand je me suis réveillée, oui, j'étais paraplégique. Et donc, j'étais condamnée au fauteuil roulant. Donc, il a fallu chercher à l'époque. On n'avait pas Internet, hein. C'était en 1991. Il a fallu que je cherche des solutions. Et un jour, j'apprends qu'il existe des avions qui sont équipés comme les voitures de commandes manuelles de pilotage. Et il y a un aéroclub comme ça à Toulouse. Alors je quitte l'Auvergne et je m'installe à Toulouse pour passer mon brevet de pilote. Et là, ça a été le début, d'une grande aventure parce que avec ma communauté de pilotes handicapés, on a changé la loi pour permettre aux personnes qui ont un handicap de pouvoir devenir pilotes professionnels, de pouvoir faire de leur passion un métier. Et on est allé plus loin encore quelques années plus tard, puisqu'on a équipé un avion de voltige pour pouvoir faire de la voltige, s'exprimer librement dans le ciel. Vous vous imaginez, j'ai eu un accident d'avion et quand j'ai commencé la voltige, j'avais très très peur d'avoir à nouveau un accident. Voilà, j'ai réussi à dépasser ma peur. Et on a ce sentiment, quand on est handicapé, de retrouver une certaine liberté. Et ça, c'est fabuleux.
Bravo, Dorine. Respect et admiration pour votre parcours et votre combativité. Merci à vous d'avoir témoigné dans l'émission. Formidable.
Incroyable parcours que celui de Dorine qui nous a bluffé ce soir. Merci, les amis. Passez un beau week-end. Demain, ce sera les régions. On vous retrouve lundi pour défaire à nouveau le monde. Absolument. Peggy Broche, la météo.